Radio Bazar Nahum. C'est le bonheur au maximum.
Voilà, de retour en direct sur la place Saint-Sauveur. Il y a eu des petits calages techniques, hein, mais c'est vrai que c'est il faut prendre du temps pour encaler tout ça. Hein.
Et ben voilà, c'est les contraintes, les contraintes du Différect, mon cher Ben.
Voilà, donc on s'excuse auprès des auditrices et auditeurs, et puis à vous présents ici sur cette place pour ce léger retard, mais tout est bon. Là, je crois qu'on est au taquet, on est super prêt pour vous présenter, vous proposer cette lecture. Public par l'atelier de pratique amateur du Pantathéâtre dirigé par Françoise Labrusse ici présente et ses comédiennes et comédiens. Donc c'est une lecture qui sera après, enfin donnera lieu à un spectacle joué le 29 et 30 juin au Pantathéâtre, hein, rue de Bretagne. Je ne sais pas si vous, peut-être vous connaissez ce petit théâtre.
Jamais entendu parler. Et vous, cher public de
oui,
la place Saint-Sauveur,
en tout cas, c'est sûr.
Connaissent hein? Ah si, ils connaissent.
Ouais.
Ah, mais ils sont là, vous êtes là en fait, le public.
Voilà, et donc le texte qui va être monté et là lu présentement est un texte de Vichniec.
Je m'engage pas sur le prénom. Vichniec, c'est ça.
Vichniec, tout à fait. Qui s'appelle Migra, c'est ça. Ça dure une vingtaine de minutes, donc installez-vous confortablement. Vous pouvez vous asseoir même sur les pavés, hein, soyez folle et fous. Voilà, les pavés sont très très solides, hein, ils ont coûté assez cher, donc on peut les user un petit peu avec vos jolies petites fesses. Donc un peu méthode beatnik, vous pouvez vous poser dessus, ils sont bien chauds. Voilà, vous confortablement, voilà, comme si vous écoutiez la radio, ce que vous êtes en train de faire là.
Voilà, et si jamais voilà. Parmi vous, certaines personnes avaient des fauteuils de camping, des bancs de camping, n'hésitez pas à les amener puisque nous sommes en recherche de chaises, de fauteuils et voilà, de canapes pour nos spectateurs.
Ou des piles de livres invendus, il va y en avoir sans doute quelques-uns malheureusement à la fin de cette deuxième journée, donc ça peut faire d'excellents fauteuils.
Oui, apparemment les chiffres, un point sur les chiffres, ne seraient pas au top cette année, le soleil nous aura encore fait beaucoup de mal.
On fera un bilan tout à l'heure, je crois que là ils sont concentrés, ils sont prêts, t'es prêt. Elles sont prêtes et ils sont prêts pour cette lecture donc de Migrants de Matéi Vichniec.
Nous ne lirons que quelques extraits, en fait la pièce sera beaucoup plus longue que ces 20 minutes annoncées.
Voilà.
Donc moi je vais vous lire les didascalies. Village perdu quelque part dans les Balkans. On entend le bruit d'un camion qui s'arrête. L'homme entre, enlève sa casquette et sa parka, se lave les mains, s'assoit à table. La femme lui donne à manger.
Ça va ?
Ça va.
Il y a des gens qui sont passés devant chez nous ?
Quand ?
À midi.
Il y en avait combien ?
Beaucoup.
Combien ?
Des dizaines.
Bon. Il y avait aussi des femmes ?
Oui, quelques-unes.
Bon.
Et il y avait aussi quelques noirs.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'ils étaient noirs.
Noirs d'Afrique ?
Oui.
Bon.
Tu penses que c'est normal ?
Bon, qu'est-ce que j'en sais ?
Moi, je n'ai jamais encore vu des noirs. J'en ai vu à la télé, oui, mais pas ici, chez nous. À ton avis, t'en as vu, toi ?
Non, pas beaucoup.
Non ou pas beaucoup ?
Tu veux dire quoi ?
Rien. À ton avis, ils vont où ?
Chez les Serbes.
À la frontière.
Oui, à la frontière.
Chez les Serbes.
Oui.
Ah, ça, c'est bien. Je me demande...
Quoi ?
Pourquoi le bon Dieu, il a fait les Noirs ?
Bah, il sait ce qu'il fait.
Oui, mais à ton avis ?
À mon avis, quoi ?
Bah, pourquoi quand même Dieu, il a fait les Noirs ?
Oh, parce que... C'est normal. On a le jour, on a aussi la nuit. On a l'été, mais on a aussi l'hiver. Dans la vie, on rit et on pleure. C'est pour la diversité.
Comme tu peux être bête, Igor.
Bon, alors t'as qu'à lui poser la question directement.
À qui ?
À Dieu.
Moi, je pense qu'il a voulu nous dire quelque chose par ça.
On retrouvera plus tard... Le couple dans la pièce et maintenant l'homme à la mallette et Eliou.
Tu t'appelles comment ?
Eliou.
Prends cette chaise, Eliou. Assieds-toi, tu as quel âge ?
J'ai 18 ans.
Tu crois en Dieu, Eliou ?
Oui.
C'est bien, tu es un bon garçon. Tu as soif ?
Oui.
Bien. Prends ça. Tu as un téléphone portable, il est où ?
Oui, oui.
Tu me donneras ton numéro tout à l'heure.
Oui.
Tu sais, Léo, je n'ai pas beaucoup de temps.
Oui, je sais.
C'est que beaucoup de gens veulent me voir.
Je sais.
Alors tu vois, mon temps, il est compté.
Oui.
Tu sais compter, Léo ?
Oui.
Alors, dis-moi pourquoi Dieu a fait les hommes avec deux jambes.
C'est que... Je ne sais pas.
Il aurait pu nous faire avec une jambe, une main, une oreille, un œil, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais dans sa bonté, Dieu a dit non. Je vais donner à Eliou deux jambes, deux mains, deux yeux, deux oreilles, deux poumons, deux reins, pour qu'il puisse avoir une réserve. Tu comprends ?
Oui, oui.
Dieu a voulu nous donner une chance. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec une seule jambe ?
Oui.
Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec un seul œil ?
Je ne sais pas. Oui, oui, oui.
Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec un seul rein ?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas parce que ça ne se voit pas. Mais c'est comme lorsqu'on a une seule jambe, on peut vivre toute une vie avec une seule jambe ou un seul rein. C'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Pour le cœur, il a dit non. Ce n'est pas possible de leur en donner deux. Pour le foie, il a dit non, ça ne marche pas non plus. Mais les reins, il s'est dit, je vais en donner deux à Eliou pour qu'il puisse avoir un capital. Tu sais ce que c'est qu'un capital ?
Non, je ne sais pas.
C'est une grosse somme d'argent. Et ceux qui ont un capital peuvent se lancer dans la vie, ils peuvent réussir. Et toi, Eliou, tu veux réussir, n'est-ce pas ?
Oui, oui.
Tu veux aller où ?
En Angleterre.
Mais tu ne sais pas nager, Eliou.
Non.
Et tu sais ce qui arrive aux Noirs comme nous qui ne savent pas nager lorsqu'on doit traverser la mer ?
Non.
On se noie, Eliou. Voilà ce qui nous arrive lorsqu'on ne sait pas nager et qu'on n'a pas de capital. Tu comprends ce que je dis ?
Non.
Bon, alors je reprends tout. Regarde cette photo, Eliou. Tu reconnais cette ville ?
Non.
Cette ville s'appelle Birmingham et ça se trouve en Angleterre. Ah. Et regarde ça. Qu'est-ce que tu vois ici ?
C'est une pharmacie ?
Non, c'est une toilette publique.
Ah.
Tu sais ce que c'est qu'une toilette publique ?
Oui.
C'est un endroit propre où les gens civilisés viennent pisser. Regarde ça, tu vois ?
Oui, je vois.
Et cette bonne femme-là, tu sais ce qu'elle fait ?
Non.
Elle encaisse de l'argent, Eliou. Ici, dans cette toilette publique, il faut payer pour pisser. Et cette bonne femme qui est là et qui est très vieille va prendre sa retraite dans un mois. Et toi, tu pourrais prendre sa place, Eliou. Et pour arriver à Birmingham, tu pourrais aussi prendre l'avion. Et pour prendre l'avion, tu ne sais, tu n'as pas besoin de savoir nager. Alors tu vois, au lieu de partir avec tes frères vers la Macédoine ou vers la Serbie ou vers je ne sais où, je pourrais te mettre dans un avion, si tu veux. Mais est-ce que tu veux ?
Oui.
Et tu vas me payer tout ça une fois arrivé là-bas, car tu es riche, Eliou. Tu as un capital.
Quel capital ?
Le capital, la grosse somme que Dieu t'a donnée.
Quelle somme ?
Je parle de tes reins, Eliou. Tu en as deux, n'est-ce pas ?
Oui.
Or, le deuxième, c'est ton capital. Maintenant, tu comprends ?
Oui.
T'as encore soif ?
Oui.
Tiens, prends encore un coca.
On retrouvera également ces deux personnages tout au long de la pièce. Et maintenant, les passeurs d'enfants 1 et passeurs d'enfants 2.
Le fait que vous êtes là et que vous nous écoutez, Le fait que vous êtes là et que vous nous écoutez, ça veut déjà dire que ce que nous avons à vous dire vous intéresse.
Nous aimons tous nos enfants. Les enfants, c'est tout ce que nous avons de plus précieux.
Nous sommes tous prêts à tout faire pour qu'ils puissent avoir un avenir, pour qu'ils puissent grandir normalement, dans l'amour de Dieu et en sécurité.
Vous êtes tous prêts à tout faire pour partir avec eux en Europe, pour qu'ils puissent vivre en Europe, pour qu'ils puissent aller à l'école et avoir un travail.
Mais vous n'êtes pas obligés d'aller avec eux en Europe pour qu'ils puissent vivre en Europe.
C'est beaucoup plus simple et plus sûr de les envoyer seuls. Eh bien oui, et c'est la meilleure solution pour vos enfants.
Vous comprenez ces paroles ?
Il n'est pas trop tard. Personne d'autre que toi-même ne peut écrire ton destin.
Écoutez, nous sommes, comme vous, des parents croyants.
Et c'est au nom de Dieu, et parce que Dieu nous a montré la voie, que nous faisons ce travail pour vous et pour vos enfants, pour qu'ils puissent écrire leur destin.
Parce qu'il n'est pas trop tard.
Et pour que l'identité de nos peuples ne se dilue pas.
Nous avons déjà fait passer en Europe des milliers d'enfants.
Et on n'a jamais perdu en route un seul enfant.
Des milliers d'enfants d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, de Libye, de Somalie. Et on n'a jamais perdu un seul enfant. Et je le jure sur l'amour de Dieu et sur l'âme de ma mère.
Nous ne sommes pas des bandits.
Nous ne sommes pas des voleurs.
Nous ne sommes pas des proxénètes.
Nous ne sommes pas des mécréants.
Nous sommes une organisation humanitaire qui sauve les enfants en détresse. Et vos enfants, vous le savez bien, ils sont en détresse.
Ils n'ont pas d'avenir chez vous.
À tout moment, des hommes en armes peuvent faire irruption dans vos écoles et enrôler à vie vos garçons.
Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Que vos garçons, à l'âge de 12 ans, deviennent des combattants et aillent faire le djihad ?
Non, c'est pas ça que vous voulez.
Et pour vos filles non plus ? Vous ne voulez pas qu'elle soit enlevée par Boko Haram ou par d'autres fous de Dieu ou par des sans scrupules qui vont les marier de force à des martyrs décervelés qui vont les laisser veuves à 18 ans.
Écoutez, l'Europe est prête à accueillir vos enfants à bras ouverts.
Tenez, c'est écrit ici sur la déclaration des droits des enfants. Les enfants sont au cœur des valeurs et des aspirations de l'Europe.
Vos enfants seront protégés en Europe. Et les lois sont bonnes. Ils seront nourris, soignés, envoyés à l'école.
Regardez ces photos.
C'est dans des logements comme ça qu'ils seront accueillis.
Avec des salles de prière à côté.
Et des salles de jeu aussi.
Et ils vont manger halal. Ça aussi, c'est prévu par la loi.
Et dès qu'ils peuvent, ils pourront demander à faire venir leur famille.
Et ça aussi, c'est prévu par la loi.
Alors, on retrouve plus tard ces deux personnages qui ensuite vont parler argent. Et nous terminerons sur la scène de la chanteuse. Nous terminerons sur la scène de la chanteuse voilée.
Bonjour, je m'appelle Anaïta. Je suis chanteuse et je suis venue là devant vous parce que je veux vous chanter une chanson. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi je porte le hijab. C'est parce que je suis toxique. Je risque de perturber la paix sociale. Alors, il ne faut pas que les protubérances de mes seins soient vues. Il ne faut pas que mes avant-bras soient visibles. Il ne faut pas que l'on voie mes chevilles, mon cou, mes cheveux. Tout ça risque de perturber le regard des hommes. Et les hommes, on sait bien... Ils sont sensibles, ils sont fragiles. Un avant-bras dévêtu, ça risque de perturber le regard des hommes pendant des jours et des jours, sinon toute la vie. Imaginez, une paire de chevilles dans des sandales trop légères, ça risque de provoquer une tempête. Agressé, ébloui, intoxiqué par une image pareille, l'homme perd sa tranquillité, son équilibre intérieur, sa capacité de concentration. Imaginez, des milliers de chevilles féminines insolentes et irresponsables qui font irruption dans l'espace public. Ça risque de provoquer un tremblement de terre social. Les chevilles sont de maudites sources de fantasmes érotiques, tout comme les coups et les cheveux. les poitrines trop proéminentes, les fesses qui se dessinent de manière trop visible sous des hijabs trop moulants. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien car comme ça, la vie publique devient un enfer. Les têtes des hommes se remplissent de fantasmes, ce qui réveille des désirs impossibles à assouvir. Et finalement, toute cette mécanique engendre une frustration profonde qui empoisonne la vie de famille, la vie professionnelle, l'équilibre social et finalement la paix civique. Oui, c'est pour ça que nous, les femmes, dans mon pays, nous portons toutes le hijab et nous sortons toutes couvertes. Nous ne voulons pas provoquer de tsunami émotionnel, déséquilibrer la société, provoquer le chaos. Vous savez peut-être ce que ça veut dire, l'effet papillon. C'est que parfois, un battement d'aile de papillon en Chine risque de provoquer une tornade dans l'océan Indien. Et nous, les femmes, nous sommes faites comme ça. Le diable a dû s'en mêler, peut-être. Nos seins, nos poitrines, nos chevilles, nos cous, nos cheveux, les formes de nos ventres et de nos fesses, notre taille fine, la finesse de nos mains et de nos lèvres, et même nos cils et nos sourcils, nos sourires et notre langue sont autant de battements d'ailes de papillons. Et ça provoque forcément des tempêtes, des tornades et des tsunamis. Et vous savez ce qui se passe alors ? Des maisons implosent ou sont emportées par les flots. Des villes et des villages entiers sont dévastés, la civilisation s'écroule, l'ordre fout le camp et c'est la barbarie qui s'installe à la place. Les hommes, eux, avec leurs cheveux abondants, leurs cous solides, leurs larges épaules, leurs poitrines poilues, leurs bras nus et musculeux ne provoquent jamais rien. C'est prouvé, c'est plus qu'une certitude. Jamais de mémoire de l'histoire de l'humanité, aucune cheville d'homme, aucune barbe virile, aucune poitrine masculine dénudée n'a provoqué aucun effet papillon. C'est pour ça que les hommes peuvent se promener habillés comme ils veulent. Même en chemise, même torse nu, même moulé dans des jeans, serré. En ce qui les concerne, pas de battement d'ailes de papillon, pas de catastrophe sociale, pas de conscience contaminée par les fantasmes. Voilà. Pour que ça soit clair. Mais pourquoi je porte le hijab ? Pour ne pas causer de désastres intérieurs et extérieurs, pour ne pas me retrouver un jour à l'origine de l'extinction de la civilisation et de la vraie fin physique de l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon pays, nous les femmes, nous n'avons pas non plus le droit de chanter en public. Les hommes, oui. La voix des hommes n'est pas nocive, toxique, dangereuse. Mais la voix des femmes, c'est comme leur sein, leur sourire, c'est-à-dire langoureuse et provocatrice et nuisible. Donc, je n'ai pas le droit de chanter en public. Mais pourtant, je vais vous chanter une chanson. C'est une chanson sur la misère affective, sentimentale et sexuelle dans laquelle vit une bonne partie de l'humanité. Ça va durer une minute.
Elle sort un sablier et le garde dans une main. Elle se tait pendant une minute, la bouche serrée, en regardant droit dans les yeux les spectateurs. Le sable s'écoule dans le sablier. Cela dure une minute. Quand tout le sable est écoulé, la chanteuse se penche et salue les spectateurs comme si la chanson venait de finir.
Merci.
Et me direz-vous, le politique dans tout cela, eh bien maintenant, le président qui répète son discours devant son coach.
On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Exclu. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir tout le monde. Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Il faut installer un périmètre d'intransigeance en Europe. Il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Nous avons dressé une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour rapatrier les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugié. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Il faudra aussi trouver des moyens pour lutter plus efficacement contre les grosses organisations criminelles qui se trouvent derrière ce trafic d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux sont à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth, il faut le dire. Ils sont nos ennemis, de la même manière que les djihadistes de Daesh. Voilà ce que j'avais à dire. J'appelle cela un discours de vérité et d'urgence. Ce n'est pas par un discours politiquement correct qu'on va arriver à agir. Il faut appeler un chat un chat. Alors.
Bon, écoutez, monsieur le président, pour appeler un chat, comme vous dites, ce n'est pas parce que vous voulez vous débarrasser de votre bon vieux côté politiquement correct que vous devez devenir politiquement incorrect.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que vous risquez gros sur au moins 3 ou 4 points.
Lesquels ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias n'utilisent plus le terme d'immigrant. Ni celui de clandestin.
Alors ils utilisent quoi ?
Ils utilisent le terme de migrant.
Mais pourquoi ?
Pour ne pas stigmatiser.
Mais pour ne pas stigmatiser qui ?
Ben justement, les émigrants et les clandestins.
Je ne comprends pas.
Mais réfléchissez, monsieur le président. Nous sommes en pleine mondialisation. Et cette mondialisation, nous l'avons voulu. Vous l'avez voulu. Votre majorité l'a voulu. Notre pays l'a voulu. Or, dans un monde mondialisé, on est tous des migrants et pas des émigrants. Vous suivez ?
Non.
Bon, pour être cohérent avec votre vision économique, il faut oublier les mots immigrant et clandestin. Un immigrant, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, traverse une frontière et s'installe sur un territoire où il faut respecter les coutumes, les règles et lois locales. Bref, il part d'un endroit où il est chez lui et s'installe dans un autre endroit où il n'est pas chez lui. D'accord ?
Eh oui.
Alors qu'un migrant est chez lui partout, sur toute la planète. Quand on est migrant, on migre, on bouge, on a le droit d'aller où on veut, quand on veut. Et du coup, un migrant ne tombe plus sous l'obligation de respecter quoi que ce soit. Il se considère citoyen du monde. Et c'est ça que veut la mondialisation. On a mondialisé l'économie. On a libéré la circulation des idées, des capitaux, des marchandises et des services. Pourquoi alors ne pas reconnaître aussi le droit des gens de bouger librement ?
Parce que...
Ah mais... Bon, moi je vous signale simplement cette contradiction. Et vous faites ce que vous voulez.
Mais justement,
Bon, monsieur le président. Pour ne rien risquer, je vous conseille d'utiliser le mot « migrant ».
Parce que c'est politiquement correct.
Parce que c'est politiquement correct. Voilà ce que je vous propose pour les 4 premières phrases.
Bon. Allez-y.
Bon. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je vous propose à la place. Nous restons sensibles à toute la misère du monde.
D'accord.
Bon, le mot « exclu », je le remplace par un simple « oui ».
D'accord.
On n'a jamais dit qu'on pouvait recevoir tout le monde. Je vous propose à la place. Nous allons garder les portes ouvertes, mais en fonction de nos possibilités.
C'est vague.
Ah, mais c'est irréprochable.
D'accord.
Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Je vous propose à la place, nous allons toujours accueillir des migrants, mais de manière contrôlée.
Putain !
Quoi ?
Vous êtes forte.
Merci, monsieur le président.
Vous auriez dû faire de la politique.
Mais c'est justement ce que je fais, monsieur le président.
Ah bon?
Voilà, c'est sur cette scène. La pièce comporte évidemment de nombreux autres personnages, tout aussi colorés que ceux que vous venez d'entendre. Et nous retrouvons bien sûr tout au long de la pièce également le président, son coach et quelques conseillers. Voilà, merci.
Salut, c'est Jean Marais. À chaque entracte, moi j'écoute Radio Bazar Nahum.